Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio à Avignon sur 95.2 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec les Côtes d'Auvergne et les idées reçues sur le vin qui ont parfois la vie dure, le rosé d'automne ou d'hiver, enfin matin, midi et soir. Le Vino Quiz pour gagner un très beau cadeau en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, Hélène Pio, Frédéric Hermine, David Cobold et Philippe Faubrac. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Et bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer cette émission, Invino sur Radio retrouve notre belle Hélène, chef de rubrique au magazine Régal, pour des idées de cadeaux super dans les vins spiritueux. Des cadeaux magnifiques, que ce soit pour sa femme, sa compagne ou sa belle-mère, tiens.
Oui, ou pour soi d'ailleurs. On n'est pas obligé de faire un cadeau aux autres après tout. Alors, effectivement, bah oui, on est le 1er décembre, c'est bientôt Noël. Donc il va falloir commencer à y songer. Et d'ailleurs, je vous propose de commencer tout de suite parce qu'il va falloir être rapide. Il y a des super cadeaux à choper, mais c'est cette semaine. Et en plus, on ne va pas faire un seul, mais deux cadeaux d'un seul coup, d'un seul. Je vous explique. C'est mardi 3 décembre, après-demain,
ah oui,
à 18h30.
Ah oui.
À Paris, mais on peut participer en ligne. Il y a une vente aux enchères de vin à la Maison de la Mutualité, donc à Paris, 24 rue Saint-Victor, dans le 5e, au profit de l'association Vendange Solidaire. Vendange Solidaire, c'est une association à but non lucratif, reconnue d'intérêt général. Elle a été créée en 2016 pour venir en aide aux vignerons victimes de dérèglements climatiques divers. Alors, le dérèglement climatique, on y est tous soumis. Mais cette année-là, quand même, 2016, on a fait très très fort. Il y a des vignobles du Beaujolais, Bourgogne, Loire, Languedoc, qui ont dû affronter à la fois le gel, la grêle et la sécheresse.
Oui.
Ça fait beaucoup pour avoir des raisins en bon état. Donc, notamment dans les
même
appellations...
Même pour avoir du raisin tout court.
Oui, tout court, ça, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, David, vous avez parfaitement raison, parce que dans les appellations, par exemple, comme Pic-Saint-Loup, Fleury, Morgon, Chablis ou Mentoux-Salon, donc on est d'accord, on est à la fois en Languedoc, en Beaujolais, en Bourgogne ou en Loire, il y a des vignerons qui ont perdu entre 70 et 100% de leur récolte.
Énorme. Mais comment ils font pour vivre? Il faut les aider, donc d'où Vendange Solidaire?
Il faut les aider, donc Vendange Solidaire, effectivement, parce qu'une année entière de travail ruinée en une nuit de gel ou 15 minutes de grêle, c'est quand même une catastrophe. Donc Vendange Solidaire est né pour soutenir ces vignerons-là, leur permettre de continuer à exploiter leurs vignobles, à entretenir les paysages et puis à nous faire plaisir.
Ils leur donnent des sous, ils leur donnent du vin, qu'est-ce qu'ils leur donnent d'ailleurs?
Ils leur donnent des sous pour acheter des raisins et pouvoir avoir quelque chose à
vinifier,
par exemple.
Et payer le minimum des frais d'exploitation, c'est avant tout ça.
Mais il y a quand même des assurances pour ça aussi, non?
Non, alors les assurances, elles sont tellement chères que ça coûte plus cher que de perdre une école. Donc la plupart des domaines ne sont pas assurés.
Ce qui est aberrant.
Pour faire du vin dans ces cas-là, c'est vrai que pour faire du vin, il y a beaucoup de solidarité entre les vignerons et de vignerons qui donnent des raisins. Mais après, il faut payer les frais d'une exploitation sur une année à minima.
Donc du coup, merci Vendange Solidaire d'avoir mis en place tout un tas d'opérations auxquelles on peut participer pour trouver de l'argent, effectivement.
Il faut acheter du vin là-bas, c'est une bonne action.
Donc Vendange Solidaire a aidé quand même 53 vignerons depuis 2016, donc c'est très chouette. Et si vous achetez une ou plusieurs bouteilles mardi à la vente aux enchères, vous ferez un peu deux cadeaux, un à vous ou éventuellement aux personnes à qui vous les offrirez ou à qui vous partagerez, bon d'accord.
Aux
vignerons, mais volontiers. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? On va pouvoir acheter des bouteilles sympas. On va pouvoir acheter des bouteilles chez De Monti, chez les Comtes Lafond, au Château Montrose, Giscourt, Pontet-Canet, chez Thomas Picot à Chablis, chez Georges Vernet dans la Vallée du Rhône. Des portos de Niport, de la Quinta Maria Isabelle, des bouteilles de Chartreuse. Il y a un tas de trucs super, ça donne vraiment.
Et à tous les prix, je suppose, Hélène.
À tous les prix,
parfait.
Absolument. Soit on va participer à la Maison de la Mutualité.
Il y a un site.
Effectivement, on va se renseigner ou participer en ligne sur www.vendangesolidaire.com.
Excellent. Deuxième coup de cœur.
Alors, deuxième coup de cœur. Dans un genre très différent, là maintenant, je vais vous parler de bière. Alors, le 1er décembre aujourd'hui, c'est traditionnellement le premier jour du calendrier de l'Avent. Vous avez ouvert votre petite case avec votre mini chocolat ce matin, Alain?
Ah bien sûr, comme tous les 1er décembre.
Ouais. Oui, c'est ça. Alors, le mini chocolat, c'est sympa, mais la petite binouze, c'est quand même cool.
Avec
aussi,
modération, hein. toujours.
Pas
toute petite.
Hein. Donc, justement, Saveur Bière, leader de la vente en ligne de bière en France, propose le Beery Christmas. Et alors, écoutez-moi bien, parce que si vous êtes sage, vous rigolez, mais n'empêche que si vous êtes sage,
sympa.
Après, après la pause, je vais jouer la Mère Noël et je vais vous le faire gagner, mon Biologie.
Et en plus, il coûte cher ce catalogue, non? Enfin, ce calendrier.
Mais oui, ça coûte près de 70 euros.
Mais
attendez, oui, mais attendez, c'est génial.
Ça en fait des bières.
Bon, enfin, bon, et c'est génial à condition d'avoir un peu de place, hein, parce que c'est pas un truc ultra plat
il
et léger.
Il fait 7 mètres sur 14.
Il faut qu'il y ait 24 bières qui tiennent, hein, donc c'est pas votre truc ultra plat.
C'est presque un camion, votre machin.
Si vous tombe sur le pied, ben, vous passez Noël à l'hôpital. C'est un gros cube, 50 cm de haut, 30 cm de large, ça pèse dans les 17 kilos. D'accord, ok. Bon, mais il est très joli.
Ah bon.
Il est signé par l'artiste Raphaël Varona, donc c'est magnifique. Non, surtout le truc sympa, c'est que les bières sont bonnes. C'est quand même le truc.
Oui, c'est ça,
essentiel.
C'est pas mal. Oui, c'est principal.
C'est la 7e édition que Saveurbière propose ce calendrier de l'Avent. L'originalité cette année, c'est que pour déguster sa bière, il va falloir la mériter, les gars. Il va exit la petite numérotation. Vous cherchez le 1, le 2, le 4. Le 72 n'existe pas, ne cherchez pas. Il va falloir résoudre une énigme tous les jours pour trouver la case à ouvrir. Il n'y a pas de case sur le calendrier. Alors, il y a des indices, hein, on vous fournit des petits indices. Et puis, vous allez sur la page Facebook de Saveurbière voilà, on vous aide si vraiment vous ne trouvez pas. Et puis vous découvrez l'histoire, la brasserie, le style de la bière du jour. Et vous ferez des vraies découvertes parce que toutes les bières sont uniques. Elles ont été brassées en exclusivité pour cette nouvelle édition du calendrier de l'Avent.
Un dernier coup de cœur rapide, peut-être, Hélène, avant de parler d'une autre région.
Oui, alors mon dernier coup de cœur, là, c'est sur. C'est des spiritueux cette fois-ci, la Distillerie Générale. Et alors là, le site, je vous le donne tout de suite, comme ça c'est fait, c'est la-distillerie-générale.fr.
Ça, c'est original. Et ça s'appelle la Distillerie Générale. Général,
oui. Oui, mais c'est les tirets qui changent tout.
Ah, les tirets,
non, l'originalité, sinon, c'est que c'est le groupe Pernod Ricard qui a lancé cette nouvelle gamme, qui explore ce nouveau modèle des spiritueux ultra rares en tout petite série. Donc, on n'est pas dans le Ricard
Et ce qui est rare hein. Est cher, Hélène
Et très bon, surtout.
Alors, ce qui est rare est souvent cher, parce que ce sont des petites bouteilles, voilà, en général, des formats 35 centilitres. Mais on a vraiment des cuvées d'exception. Ça va de l'absinthe à 42 euros, bon d'accord, l'agenciane à 40 euros, à effectivement des single batch ou des armagnacs beaucoup plus chers, mais la Distillerie Générale, les bouteilles sont jolies et c'est très bon dedans.
Merci beaucoup Hélène Piau, Invino Sud Radio, retrouve Philippe Orbois, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, boulevard Haussmann, pour nous amener au pays des volcans et de l'eau, mais il y a aussi du vin.
Exactement, le rugby, du côté de Montferrand, avec l'ASM qu'on salue, et quelques joueurs qui sont passionnés de vin, je pense à Rémi Lamera notamment.
Ah, il est à Bordeaux maintenant.
Exactement.
Mais il est passionné de vin.
Surtout à Perpignan, comme Chouly, par exemple.
Exactement, ouais. Sébastien. Pour parler des Côtes d'Auvergne, effectivement. Le Côte d'Auvergne, alors ça fait un peu sourire quand on dit on veut faire goûter du vin d'Auvergne.
Ouais, ça fait un peu bizarre quand même. Non même en Magnum, ça fait quand même bizarre, non?
Mais il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, jusqu'à l'époque du phylloxéra notamment, ça a été un des principaux vignobles français. Ouais. Et quand on me pose la question, même dans les quiz, etc., on ne peut pas imaginer que c'était autour de Montferrand et autour de Paris qui étaient les principaux vignobles de cette époque. Donc on y revient petit à petit, la vigne progresse. Il y a aujourd'hui 52 communes qui ont droit à l'appellation Côte d'Auvergne, c'est pas rien. On produit à la fois des blancs à partir du cépage chardonnay, et uniquement chardonnay pour l'appellation Côte d'Auvergne, et blanc. Et pour les rouges, on a essentiellement du gamay, sachant que l'on trouve également une autre cépage qui s'appelle l'auvernat, et qui n'est autre que le pinot noir. Qui
l'auvernat, c'est un synonyme.
L'auvernat, exactement. Alors les vinifications en rouge sont plutôt concentrées du côté de Châteauguay. On fait un peu de rosé à Coran, qui est une autre appellation, également une autre sous-appellation, si on veut, dans l'appellation Côte d'Auvergne. Et on y fait des vins qui sont, ma foi, assez intéressants, notamment par la particularité géologique qui est le basalte. On est sur des sols volcaniques pour l'essentiel. Et d'ailleurs, il y a une association de vignerons basaltiques qui s'est développée, qui s'est organisée sous l'égide de Pierre Desprats, qui est un des personnages clés, j'allais dire, un peu de la fois de la production, mais aussi de la distribution de ces vins, notamment en créant il y a quelques années la fameuse Légendaire, qui est une cuvée en hommage à son papa, des vins qui sont conservés pendant l'hiver dans un buron, donc ces fameux bâtiments en pierre en altitude, dans lesquels effectivement on met à la fois le vin, mais on peut mettre aussi du fromage, de la charcuterie, etc., oui. En attendant qu'il fasse beau pour aller les récupérer. Et on dit que ça marque. Ça, je laisse Hélène Piau discuter.
Espérons ou pas que le
avec ses beaux-parents. Exactement. Et donc, l'idée de cette association de vignerons, dans laquelle on va retrouver en dehors de Pierre Desprats et de la cape de Saint-Vernis, qu'il a récupéré il y a quelques temps, des gens comme le domaine Royer, qui est installé du côté de Châteauguay, ou encore Jean-Baptiste Gougis, qui est un vigneron artiste, interprète, qui chante comme il fait du vin, et plutôt pas mal. C'est d'essayer de mettre en valeur la spécificité gustative, finalement, de ces vins issus de terroirs volcaniques. Et ils organisent d'ailleurs au fameux centre Vulcania, cher à Valéry Giscard d'Estaing notamment, fin janvier, une grande manifestation qui va réunir des spécialistes de ces terroirs.
Je vais y aller.
Et David sera là. J'y serai
Couvrez
également.
Ah bah
donc tous les gens qui, aiment David Cobot
et Philippe Forwag
peuvent venir fin janvier.
Voilà.
Couvrez-vous
en
peu.
En tongs,
ouais,
parce qu'il va faire très chaud.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y aura pas que des vins des Côtes d'Auvergne.
Ni que Philippe Forwag et David Cobot d'ailleurs.
Ni que nous. Il y a aussi des spécialistes venus du monde entier. On goûtera des vins issus de terroirs volcaniques un peu partout, des vins de l'Etna, des
bien
vins
sûr.
De Santorin, des vins de Tokaj, des vins du Vésu, des vins, etc.
Et il y a un point commun.
Des vins de Sillaos, pourquoi pas, enfin vraiment.
Tous ces vins ont un point commun quand on les goûte ou pas, Philippe ?
On va justement essayer de déterminer tout ça. Ça va être intéressant. On peut imaginer, en tout cas, l'expérience que personnellement je peux en avoir, c'est qu'il y a souvent des notes un petit peu plus épicés, un peu plus fumés.
Sur tous les vins.
Sur beaucoup de vins qui sont issus de terroirs volcaniques. Alors il peut y avoir des intensités dans la concentration du sol qui peuvent être différentes en termes de molécules qui peuvent être effectivement différentes, d'âge également des volcans qui peut jouer aussi sur l'impact que ça peut avoir sur le goût final.
S'ils sont éteints souvent, ou encore en activité, non
oui. Voilà, on va dire ça comme ça. Peut-être
un peu
les vins de l'Etna sont davantage fumés que les vins des monts d'Auvergne.
Oui.
Voilà. Mais en tout cas, c'est fort intéressant.
Surtout les vendangeurs.
Lorsqu'il y a de la fumée qui sort de la bouteille, il faut s'en inquiéter.
Oui, ou alors c'est un nouveau pape qui arrive.
Voilà. La démarche vaut la peine. Alors avec l'inscription récente en plus de la chaîne de Limagne, hein, les fameuses chaînes des Puits d'Auvergne à l'UNESCO, c'est aussi une façon, j'ai à dire, de rendre hommage à cette histoire et à ces panoramas extraordinaires. Ben, j'en ai cité quelques-uns, Jean-Baptiste Gougis, le domaine Royer, effectivement, la cape de Saint-Vernis, sont parmi les gens les plus intéressants, en tout cas les plus dynamiques, parmi les plus dynamiques de cette appellation. Côte d'Auvergne, qui est AOC depuis 2011, donc c'est assez récent.
Sans perte le service pour les rouges.
Alors, pour les rouges, c'est du gamay, donc il ne faut pas servir trop chaud.
D'accord.
Moi, j'aime bien, franchement, la température de cave. On le sort de cave à 14 degrés, on le boit à 16, c'est parfait. Quant au blanc, autour de 8-9 degrés.
8-9 degrés, quoi.
C'est pas mal. Ça dépend un peu de la saison et des moufles que l'on utilise.
Bah ouais, grand moufle, surtout pour déboucher la bouteille. Merci Philippe Forbach, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec le Vino Quiz.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission publique et délocalisée avec la charmante Hélène Piau et puis le Vino Quiz qui cette semaine, va être bizarre, j'ai l'impression, non ?
Oui, il va être un petit peu orienté Berry Quiz. Mais tout d'abord, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin ou la bière et le vainqueur gagne un très beau cadeau. Cette semaine, ce sera un calendrier de l'Avent Saveur Bière, 24 bières pour patienter jusqu'à Noël.
D'une valeur, on va le dire, hein.
D'une valeur de 70 euros. La question de la semaine dernière était: en l'honneur de qui Éric Dupond-Moretti a-t-il nommé sa cuvée Prestige ? Réponse A, Furbury, son animal de compagnie d'enfance. Réponse B, Furbury, feu son ami et mentor. Ou réponse C, Tintin, sa bande dessinée préférée.
Et la bonne réponse,
C'était B. Donc, pour gagner ce fameux calendrier de l'Avent cette semaine, la question de ce week-end est...
Écoutez bien, hein.
Qui a écrit « La bière est la preuve que Dieu nous aime et veut que nous soyons heureux ».
Wow.
Réponse A, un moine allemand. Réponse B, un brasseur anglais. Ou réponse C, un homme politique américain qui prétendait ne boire que de l'eau. Pour répondre et gagner ce fameux calendrier de l'Avent saveur bière d'une valeur de 70 euros, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène Piau. Invino Sud Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour un état des lieux sur des idées reçues qui ont parfois la vie dure, justifiées ou pas. David, qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe que les gens ont tendance à véhiculer des choses qui sont inexactes sans nécessairement aller vérifier à la source. Ça, c'est vrai qu'on prend parfois des raccourcis et je suis étonné de trouver trace de ça même dans des revues plutôt sérieuses. Là, l'autre jour, je feuilletais, on m'a envoyé une très belle revue. D'ailleurs, je signale que c'est une revue de qualité par ailleurs qui s'appelle 12 degrés 5. Superbes illustrations, magnifique mise en page, typographie exemplaire. C'est bien au-dessus de tout ce que je vois dans la presse française dédiée au vin. Hein. C'est la plus belle revue
et
en France.
Ce magazine est récent ou est ancien ?
Ce magazine est relativement récent. Je pense qu'il date d'il y a 2 ans à peu près.
D'accord.
Et je crois que c'est un trimestriel. On ne trouve pas sur les kiosques, c'est par abonnement ou dans chez les librairies.
D'accord.
Parmi les articles que j'ai lus, avec intérêt, alors faut quand même prévenir l'auditeur, ils ont tendance à suivre un peu la mode des vins dites naturels. Je suis d'accord avec notre invité de l'autre jour qui disait que c'est un très mauvais terme qui ne signifie absolument rien.
Basile Saint-Germain du domaine des Arelles.
Oui, qu'on a reçu il y a une semaine.
Donc pour moi, le terme vin nature, ça n'a aucune signification du tout probant. Alors, ceci étant dit, je lisais avec intérêt certains des articles. Il y avait une discussion entre deux personnes sur le gaz, le CO2. Hein. Le gaz, l'intitulé était le gaz, 3 points, naturel, point d'interrogation. Et les protagonistes de cette discussion se nommaient Paul Schramm et Jean L'Héritier. Et effectivement, je disais, oui, c'est normal, parce que parfois, ces vins dits naturels ont du gaz quand ils ne devraient pas en avoir.
Oui, c'est ça.
Mais ce n'était pas ça le propos. Donc, ce monsieur Paul Schramm, qui était présenté comme œnologue, professeur d'œnologie et professeur de sommellerie, j'ai vérifié, au fait, il n'est pas professeur d'œnologie, il est professeur de sommellerie.
C'est pas pareil.
Non, ce n'est pas pareil, parce qu'il n'a pas le DNO. C'est pas,
bien sûr. Voilà. C'est QFD. Et donc ça, David ?
Alors ça, sinon, je peux citer, je suis allé me renseigner sur la chambre syndicale française de la levure, hein, pour aller quand même à la source.
Ça existe.
Et oui, ça existe. Et ils disent la chose suivante. Dès la découverte du rôle des levures, les acteurs de l'œnologie ont entrepris de sélectionner les levures les plus à même de révéler les arômes présents dans le raisin, etc., etc. Donc ils expliquent un peu les choses. Et puis, il signifie qu'il y a des souches de levures indigènes qui ne sont pas nécessairement très désirables. Par exemple, les Brettanomyces bruxellensis.
Oui.
Alors, les Brettanomyces, c'est intéressant. Vous voyez que les Français mettent toujours le tort sur le voisin. Brettanomyces, ça vient de la Bretagne, la Grande-Bretagne.
Non, elle n'est pas très loin du Brexit, quand même.
Et puis, bruxellensis, ça vient de Bruxelles. Donc, oui. C'est Belgique. Donc, c'est une combinaison britanno-belge. C'est très bon pour la gueuse. C'est de levure, mais c'est très mauvais pour le vin. C'est ce qui donne un arôme un peu animal, vraiment...
Animal prononcé, hein.
Oui.
Merci beaucoup, David Cobold. Merci, David Cobold, InVino Sud Radio.
Par ailleurs, 12,5, c'est une belle revue.
C'est une belle revue. Quoi. Merci, David. InVino Sud Radio retrouve Fallet Carmine, journaliste au magazine Terre de Vin, pour nous parler d'un bel anniversaire, version rosée, 20 ans.
Alors, un petit panorama rapide du rosé maintenant, parce que ça va vous repositionner un peu il y a 20 ans. Le rosé aujourd'hui, c'est un tiers des vins consommés en France. C'était 9% hein, au début des années 2000. On est le plus gros consommateur en France de rosé. Hein, 34%, on consomme 34% des rosés produits dans le monde. On est aussi les plus gros importateurs, parce qu'on en boit plus qu'on en produit.
On importe beaucoup de rosé.
Oui, on importe beaucoup de rosé, principalement de l'Espagne. Et en 20 ans, on est passé de 8 à 40%. 42% de rosé de Provence à l'export. Maintenant, une bouteille sur deux exportée des vins de Provence sont aux États-Unis, d'où quelques petits soucis ces derniers temps. Et puis, 17% des rosés produits en France sont produits en Provence, mais 42% des appellations d'origine contrôlée. Le delta, c'est bien évidemment les IGP 20 Pays DOC qui font le complément, puisqu'ils ont plus de facilité en termes de volume et de surface. Et c'est devenu le vin préféré des millennials, selon les dernières études. Donc les millennials très courtisés, les 18-35 ans. Tout ça, c'est un petit panorama.
Mais vous aussi, vous avez été jeune, David. Alors, nous aussi, là.
Vous inquiétez pas,
mais c'était pas le même siècle.
Oui, c'est pas le même siècle.
Donc il faut se rappeler qu'au XXe siècle, ce qui n'est pas si loin que ça, c'est vrai que le rosé était un petit vin bu sous la tonnelle l'été, pas forcément très bon. Ce qui a fait la crise varoise du début des années 90, où on arrachait quand même 1000 hectares par an, parce qu'on ne savait pas trop quoi en faire. Et à l'époque, David va être très content, le rosé n'était pas vraiment un vin, il faut bien l'avouer. La Chambre d'agriculture du Var avait déjà un petit centre de recherche, mais bon, anecdotique. Et un jour, l'ITV, qui est l'Institut technique du vin, décide de faire 3 centres de recherche pour améliorer la qualité des vins, un par couleur. Et là, la Provence s'est battue pour avoir celui du rosé, et en appellation Côte de Provence, qui était la plus connue et la plus importante en volume. Et à l'époque, il y a 20 ans, le rosé, mais ça n'existait pas, quoi. C'était vraiment inexistant. Et pourtant, il y avait quand même quelques candidats. Il s'est installé à Vidauban, qui est en plein milieu du Var, entre Brignoles, Saint-Tropez, enfin vraiment au milieu. Et avait, à l'époque, il y avait Cassis, Bellet, Bandol, Palette, les 20 pays qui ont adhéré au projet, qui s'est développé. Et ils ont compris à ce moment-là que l'avenir dépendait quand même de la recherche, de l'amélioration de la vinification, de la conservation, de la personnalisation avec un nuancier. C'est la première fois qu'on a sorti un nuancier des rosés avec des définitions et un vocabulaire adéquat, c'est-à-dire la couleur melon, pêche, abricot, etc. Ça n'existait pas il y a 20 ans, ce qui peut paraître étonnant maintenant.
Ouais, c'est totalement inutile, c'est une connerie ça.
Et il y a donc des gens qui se sont battus pour ça, hein, Claude Martel, Louis Fabre, Claude Bonny, qui était le premier président, Hubert Falco, qui était le président du Conseil général du Var à l'époque, et un jeune œnologue, alors qui était docteur de la science des aliments. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, qui s'appelle Gilles Masson, qui était dans le Rhône et à qui on a proposé le poste de directeur. Et à l'époque, il me racontait qu'on lui a dit, il a souvent entendu, mais t'es complètement fada, mon pauvre putain, d'aller là-bas t'occuper d'un truc qui n'est même pas du vin. Et il est toujours là, Gilles Masson, et il a fait beaucoup de choses en termes de fédération, d'agitateur d'idées pour faire évoluer tout ça. Et le rosé est devenu alors un vin frais, parfumé, pâle, aromatique, expressif. On ne parlait pas de buvabilité à l'époque. C'est un vin qui est devenu tout à fait buvable, qui n'était plus le vin vineux, oxydatif et structuré de l'époque. Certains dégustateurs pisse-froid qui ne reconnaissaient pas que le rosé était du vin
quelques
sont devenus...
Quelques noms peut-être, Frédéric ?
Non, on va éviter, mais il y en a quelques-uns peut-être autour de la table également.
Je n'ai jamais dit que ce n'était pas un vin. C'est un vin. Par contre, faire une dictature par l'absence de couleur, ça, c'est une grosse bêtise.
Alors,
les plus intéressants des rosés sont les plus foncés, pour moi.
Le Tavel, par exemple.
Alors non, il n'y a pas de règle, justement. Je pense qu'il y a autant de rosés intéressants pâles que de rosés couleur Tavel, effectivement, cette couleur cerise, parce que ça n'est pas la couleur qui a défini, en l'occurrence, c'était le nuancier. Et on a découvert, à ce moment-là, en travaillant, qu'il fallait récolter mûr et non pas trop tôt, comme les critères du vin rouge, pour faire un bon vin, qu'il fallait faire des vendanges nocturnes, un pré-turage rapide avec du froid. C'est ce qui a fait aussi la découverte des techniques du froid fait évoluer. Et on a fait travailler des experts, parce qu'il n'y avait pas de jury d'experts spécialistes sur tous les rosés du monde, ce qui a fait aussi beaucoup avancer les choses. Maintenant, on travaille alors sur une différence de cépage. Le Grenache, Cinsault, Syrah, avec un peu de rôle, est toujours la majorité des vins produits en Provence. Mais maintenant, on redécouvre le Roussely, qui était l'ex-rosé du Var, des Vidoc, des Xarpaban, qui n'étaient pas bons à l'époque parce que pas assez de degrés et trop acidulé.
Donc, affaire à suivre dans les 20 prochaines années.
On fait évoluer la recherche toujours.
Merci beaucoup, Frédéric Abin. Merci également à vous, Hélène Piau, Philippe Forbach et David Cobold. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission délocalisée en public chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations. Salut.
Invino avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.